Bienvenue dans Langue de Prune, votre émission sur la langue et la société. Reportages, débats, interviews et vos chroniques sympathiques et éclectiques. D'ici et d'ailleurs, à qui la faute ? L'étymologie en folie. À Langue de Prune, on n'a pas la langue dans nos poches. Tous les derniers mardis du mois, de midi à 13h.
Et salut à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission Langue de Prune avec toujours la même équipe. On dit donc bonjour à Axel.
Bonjour.
Louis.
Bonjour.
Et à Zilise.
Bonjour.
L'équipe de choc toujours présente pour parler de la langue française. Et ce soir, c'est moi qui prends les commandes de l'émission. Et si ma voix ne vous dit rien et que vous vous dites « mais c'est qui celle-là ?» Eh bien, c'est sûrement parce que je suis arrivée seulement le mois dernier. Donc je me présente, moi c'est Morgane et je serai votre guide pour cette émission. Alors c'est parti pour une heure ensemble, vous êtes bien sûr Prune 92 FM. Vous étiez peut-être présent à la Nocturne Féministe dans la nuit du 26 au 27 novembre, ou peut-être avez-vous participé à d'autres événements organisés par la ville de Nantes, ce mois-ci dans le cadre de la lutte contre les violences sexistes. Ou bien encore, peut-être avez-vous entendu des émissions de Prune dédiées au sujet ces dernières semaines. En tout cas, nous avons également choisi d'apporter notre pierre à l'édifice. Et pour ça, nous avons la joie de recevoir une invitée tout spécialement venue pour parler, débattre et échanger des idées avec nous. J'ai nommé Maëlys, coprésidente de Nous Toutes. Bonjour Maëlys.
Bonjour à tous, merci de me recevoir aujourd'hui.
Alors, je ne vais pas trop en révéler parce qu'il me semble que beaucoup de questions te seront posées, mais on peut déjà dire que tu appartiens au collectif féministe et engagé Nous Toutes. Pour ce qui est du reste, c'est Axel qui se chargera de te poser les questions pendant l'interview en cette première partie d'émission. Ensuite, Louis nous racontera l'étymologie du nom féminicide. Azilise enchaînera avec le langage utilisé pour évoquer les violences. Et pour continuer sur cette lancée, Axel se chargera de la chronique, la deuxième d'ailleurs, de Étymologie en folie. Et enfin, on fera ensemble un tour des violences verbales qui visent les femmes sur les réseaux sociaux. Et on finira bien sûr par la chronique d'ici ou d'ailleurs. Avant d'entamer nos discussions, nous aimerions faire une petite annonce à nos auditeurs et auditrices. Les sujets que nous allons mentionner pourraient faire remonter des traumatismes ou autres sentiments désagréables. Nous préférons donc demander aux personnes qui pourraient être affectées par les propos d'arrêter d'écouter si cela remue trop d'émotions négatives. Et vous êtes toujours sur Prune 92 FM.
Alors, du coup, Morgane a mentionné, par exemple, la Nocturne Féministe qui a eu ce week-end au moment de l'enregistrement. Le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, on trouvait important d'échanger avec un des nombreux collectifs ou des nombreuses associations féministes qui se trouvent à Nantes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, on reçoit Maëlys. Comme Morgane l'a dit juste avant, c'est une des coprésidentes de Nous Toutes 44, donc active sur... Nantes et le département autour. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, Maëlys, et présenter aussi Nous Toutes ? Il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas vraiment le collectif, ce que vous faites.
Alors, salut, moi c'est Maëlys. Je suis coprésidente de Nous Toutes 44 depuis un petit mois. Je vais y venir après. Nous Toutes, c'est un mouvement qui a été lancé dans la suite de MeToo en 2017. Donc, le mouvement fête ses 5 ans cette année. Le but principal de Nous Toutes, c'est de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc, on a un fonctionnement qui est un peu spécifique à Nous Toutes, où donc c'est un mouvement national découpé en comités locaux partout en France. Et donc après, chaque comité local a le choix de décider quelles actions, son fonctionnement, etc. La seule consigne, la seule règle, c'est de respecter la charte de Nous Toutes, que vous pouvez consulter sur le site noustoutes.org. Et donc nous, dans le 44, on est un collectif qui existe à peu près depuis un an et demi, deux ans. Et on a décidé de se constituer en asso, chose faite depuis le début du mois de novembre. Et donc voilà, et donc on est Nous Toutes 44, même si on agit principalement pour l'instant sur Nantes Agglo. On a espoir de pouvoir intervenir un peu partout dans le département, mais bon... On est une petite association, on grandit petit à petit.
Oui, vous commencez d'abord par Nantes.
C'est ça.
Vous élargir. D'accord. Alors, Une question que je voulais te poser, c'est comment est-ce qu'on peut mesurer, en fait, aujourd'hui, par exemple, les violences sexistes et sexuelles en France ? Quelles sources est-ce qu'on peut utiliser pour faire un constat, en fait, déjà, avant de parler du sujet plus en détail ?
Alors, la manière de quantifier la plus marquante, c'est de décompter les féminicides, chose qui est faite par nous toutes. Là, on est, je crois, à 124 féminicides pour cette année. Ça, c'est un décompte qui est fait par nous toutes en fonction des médias, des informations qu'on a aussi des services de justice et de police. Voilà, pour vérifier qu'il s'agit bien de féminicides et comment... Enfin, voilà, vérifier un peu comment les choses se sont passées pour voir si ça rentre dans le cadre ou pas. Après, honnêtement, c'est très compliqué de quantifier les violences, étant donné que les femmes victimes ou les personnes victimes de violences ne vont pas porter plainte parce qu'elles ne sont pas incitées, que ce soit par le gouvernement ou par les suites potentielles après, à porter plainte. Donc ça reste très compliqué. On est depuis, comme je disais, depuis le mouvement MeToo sur une... ce qu'ils appellent une libération de la parole. Donc on voit que les gens osent de plus en plus parler de ces sujets-là. Après, de là, donc, quantifier, ça me paraît un peu compliqué.
D'accord. Et c'est vrai que donc, tu parlais par exemple d'une des sources que vous utilisez, c'est les médias. Mmh. Alors on a par exemple tous en tête les faits divers. Mmh. Lorsque par exemple une femme est tuée par son conjoint, les titres vont souvent utiliser des termes comme le crime passionnel, drame conjugal, utiliser beaucoup aussi la voix passive. Par exemple, une femme meurt poignardée, ce qui ne veut rien dire. Ce qui donne en fait aussi l'impression souvent que le meurtre, c'était soudain, imprévisible. Et en fait, ça édulcore la violence de la réalité. Pourtant, on sait très bien que quand on parle de féminicide, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part d'un coup. On sait que c'est des mécanismes qui sont mis en place, qui sont mis en œuvre par l'agresseur du coup, dans une relation qui était violente et abusive. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces mécanismes-là, en fait, comment ça se... Déjà, qu'est-ce qu'on connaît et comment ça s'illustre ?
Je commencerai juste par repréciser qu'on ne tue jamais par amour. Ça ne va pas ensemble, on ne peut pas. C'est quelque chose qui n'existe pas. Tous les titres de médias que tu cites sont des titres en fait, qui minimisent les violences, l'impact qu'elles peuvent avoir sur les personnes qui lisent, par exemple, le journal, etc. Minimiser les violences, c'est quelque chose qui est fait par le patriarcat. Je l'ai mis des guillemets, pardon, vous ne les avez pas vus. C'est quelque chose sur lequel on essaie de lutter, nous, de faire comprendre que non, cette femme, comme tu dis, ne s'est pas fait poignarder, mais son mari... son conjoint, son ex-conjoint, etc., l'a tué. Voilà, l'a tué, pardon. Lise, enfin, tu parles du chemin et comme tu dis, non, une personne ne s'est pas fait, enfin, une femme n'a pas été tuée soudainement par son mari. Il y a souvent un chemin avant, souvent de, enfin, quelquefois de plusieurs années, un chemin d'isolement, de menaces, d'éloignement des proches, de contrôle sur la vie de la femme. Qui très souvent est plus ou moins détecté. Il y a des fois eu, par exemple, des signalements auprès de la justice qui ne sont pas pris en compte. Si on prend, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de Jacqueline Sauvage, qui est une femme très connue dans le monde des violences sexistes et sexuelles, qui a tué son mari à force de 45 années où il la tapait, il la violentait à plein de niveaux différents. Et notamment, Jacqueline Sauvage, elle était salariée de l'entreprise de son mari. Ça veut dire que son mari, qui était violent avec elle, avait le contrôle sur toute sa journée, puisqu'elle restait à la maison travailler pour lui, sur son travail, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de contact social par son travail, ce qui peut des fois être un échappatoire énorme, et il avait une pression financière sur elle aussi, en plus de tout le reste dans leur vie de tous les jours. Donc ça aussi, les violences financières, dans les quelques poussières de mesures prises par le gouvernement Macron dans le cadre de leur grande cause du quinquennat, il y a quelque chose qui est la déconjugalisation de l'AAH, qui arrive d'ici un an et quelques, hein, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire dès cette année apparemment. Donc voilà, donc, c'est une décision qui a été prise par le gouvernement de déconjugaliser l'AAH pour qu'une femme, qui est l'AAH ne soit pas dépendante entièrement de son mari qui aurait un plus gros niveau de revenu et donc qui ferait qu'elle n'aurait plus d'AAH.
Juste comme ça, c'est quoi l'AAH ?
Ah pardon, l'allocation adulte handicapé.
Ah oui, ok. Et du coup, il y a pas mal d'idées reçues sur les relations comme ça qui peuvent être abusives. Est-ce qu'il y en a quelques-unes que tu peux nous citer ou, et justement, en fait, des, détruire.
Je pense que la principale idée reçue, c'est de penser que les violences sexistes et sexuelles sont physiques. Alors oui, il y a une énorme partie des violences qui sont physiques, qui, voilà. Mais il y a aussi, comme je le disais, les violences financières qui mettent les victimes dans des situations d'urgence et d'isolement. Il y a les violences sexuelles qui sont maintenant reconnues, mais je crois que ça date des années 80-90, la fin du... Alors comment ils appelaient ça ? Du devoir domestique, ou je ne sais plus comment on appelait ça. Du fait que, en fait, oui, le viol conjugal existe. C'est très, très récent. Et c'est des choses sur lesquelles, même si on avance petit à petit, il y a encore beaucoup de mal. Qu'une femme arrive dans un commissariat pour dire « bah voilà, mon mari m'a violée ». Enfin, j'attends de voir les réactions, quoi. Donc voilà, il y a toutes ces violences-là qui vont autour, en fait, du fait de taper quelqu'un, qui font que ça... Ça fait tourner le cercle, en fait, et que le cercle se referme autour de la personne victime.
Tu parlais, par exemple, oui, de tout ce qui va être isolation. Et c'est vrai que, généralement, les hommes abusifs ne sont pas des hommes désagréables avec leur entourage. Et c'est ça aussi qui peut renforcer en fait, l'isolation. Parce que tout le monde dit, bah non, il est grave gentil. Et d'ailleurs, quand on parlait des médias, souvent, quand on voit les médias, ils interviewent les voisins qui sont genre, hey, je ne comprends pas, c'était une famille très calme, il était très gentil... Ça fait partie du processus, en fait. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, si on connaît une personne ou, qui est victime de violences de ce type-là ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider une victime quand elle est dans cette emprise-là, en fait ?
Je pense que le premier réflexe à avoir, c'est d'appeler le 3919, qui est un numéro ouvert 24/7, gratuit, qui peut à la fois servir aux personnes... témoins ou aux personnes proches de victimes de violences, juste déjà pour vérifier que vous-même vous êtes OK. Enfin, vérifier. Avoir un accompagnement dans le but de vous-même être OK avant d'engager potentiellement un accompagnement d'une victime. Le 3919 vous met en relation avec des professionnels pour vous, soit vous de l'extérieur, savoir que faire avec votre proche qui est victime ou. Si vous-même vous êtes victime, vous pouvez le contacter et vous serez pris en charge par une équipe médicale, par des professionnels pour être accompagné dans vos démarches. Ça, c'est le numéro à communiquer. On en parle partout, mais peut-être pas assez. Et puis à Nantes, on a la chance d'avoir Citadel, qui est l'un des quelques lieux en France d'accueil et d'accompagnement des femmes sans condition, des femmes et des enfants, pardon, qui permet en fait aux femmes de venir, que ça soit juste en journée ou sur du logement à court et moyen terme. D'être en sécurité dans un lieu avec des professionnels. Il y a des permanences, notamment du planning familial, de solidarité femmes Loire-Atlantique, etc. Pour accompagner les femmes, en fait, vraiment, et les sortir de ces situations problématiques.
Oui, tu citais, du coup, pour les femmes et les enfants. Et c'est vrai que c'est un élément important souvent, parce que s'il y a des enfants qui sont présents, c'est aussi ce qui renforce l'étau pour les femmes victimes. On entend souvent, lorsqu'une personne témoigne à une victime de violence, qu'il faut qu'elle aille porter plainte. On en a parlé un peu, mais la réalité, c'est que lorsque les victimes essayent de saisir la justice, elles vont faire face à un barrage. C'est ce qu'on appelle la violence institutionnelle. Comment est-ce qu'on pourrait définir la violence institutionnelle ? Comment est-ce qu'elle se présente, on va dire ce...
Alors, la définition la plus proche que j'ai trouvée, c'est un mauvais traitement envers une personne par un système de pouvoir. En l'occurrence, par exemple, en général, dans les violences sexistes et sexuelles, des pouvoirs issus du patriarcat. Un exemple concret, c'est notre président de la République qui dit d'arrêter le tribunal médiatique et de laisser la justice faire son travail. La justice qui fait son travail, c'est 0,6% pardon, des viols condamnés en France. Comment inciter les gens à aller porter plainte et de demander aux gens de ne pas se répandre dans les médias sur ce qu'elles ont vécu pour au final que les gens aillent porter plainte et que ça n'ait aucun fruit.
Oui, aucune conséquence derrière, oui. Et concrètement, est-ce que c'est quelque chose qui peut changer ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter la prise de parole devant la justice des victimes ? Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui peuvent être faites ou...
Alors, je n'ai pas de réponse toute faite. On en parle beaucoup, mais ce que les associations féministes demandent, les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, demandent, c'est 1 milliard. Dans ce milliard-là, on voudrait notamment réinjecter une partie de ce milliard-là dans le service public pour le plus gros truc, on en a déjà un peu parlé, c'est former la police, en fait. Oui. C'est avoir des policiers formés capable de prendre en charge ces situations-là, avec des équipements, des locaux qui permettent aussi de pouvoir accueillir les victimes dans des espaces séparés, des espaces où elles seraient à l'aise, confortables, pas un bureau avec des néons et quelqu'un qui leur crie dessus pendant 2 heures, quoi.
Oui.
Ça, c'est l'une des choses, et je pense que c'est le plus gros taf qu'on a à faire là-dessus. Et après, la deuxième chose que je dirais, mais je m'écarte peut-être un peu, je sais pas, c'est de tous s'éduquer pour qu'en fait on arrête de remettre en cause d'abord la parole de la femme ou de la victime, pour qu'on arrête, comme on le disait tout à l'heure, de parler de la sorte dans les médias quand il y a un féminicide. En fait, c'est toutes ces choses-là.
Oui, c'est tout va ensemble en fait.
C'est ça.
Ok. Écoute, merci beaucoup pour tes réponses, pour tes informations, Maëlys. Et je laisse du coup Morgane reprendre le micro.
Ben merci beaucoup pour ces propos très intéressants et qui, je n'en doute pas, pousseront à de nombreuses réflexions. Donc, on enchaîne maintenant avec Louis qui va nous parler du mot féminicide.
L'étymologie en folie.
Alors, en effet, je vais vous parler du terme féminicide, ou du moins son origine dans le langage. Donc, Maëlys l'a employé plusieurs fois, ce terme. Vous l'avez, vous également, sûrement déjà entendu de nombreuses reprises, ne serait-ce que dans les médias. Bon, bien que le terme féminicide soit plutôt intégré dans notre langage aujourd'hui, il a longtemps fait l'objet de controverses, et ce n'est pas encore reconnu par tout le monde. Pourtant, ce terme, il n'est pas si nouveau que ça. Je m'explique. Trouver une origine ancienne au mot féminicide, c'est pas aisé, mais c'est possible. Toutefois, les définitions du mot ont très grandement varié, vous allez voir, hein, c'est très éloigné de ce qu'on met derrière aujourd'hui. La toute première fois où on repère ce terme dans un texte, c'est dans une pièce de théâtre de Paul Scarron en 1652, sous la forme de fémicide. Et ça exprime dans cette pièce l'intention par un homme d'attaquer une femme. Plus tard, donc quand même 2 siècles plus tard, c'est en 1863 qu'on retrouve Jules Lecomte. C'est un écrivain français qui invente l'expression de, alors j'ouvre les guillemets, lasser féminicide. Dans le journal de Le Monde Illustré, et là on va voir, c'est vraiment à l'opposé total de ce qu'on met derrière le terme féminicide aujourd'hui. Ça désigne un instrument qu'auraient les femmes pour dominer les hommes. On est vraiment très très loin de l'expression actuelle. Je vais terminer cette petite escapade historique avec une autre période. Bon, on n'est pas très loin, c'est en 1887, c'est dans le périodique Le Rappel. On peut lire dans sa parution du 31 octobre 1887, donc le terme féminicide comme le meurtre d'une femme sur une autre. Vous l'aurez compris, le terme a longtemps été vagabond, jamais employé pour désigner la même chose. C'est dans les années 80 que le terme aura été popularisé dans la sphère linguistique anglo-saxonne pour désigner un meurtre de femme commis par des hommes parce que ce sont des femmes. Ce sont deux femmes, Jill Radford et Diana Russell, qui l'employèrent ainsi. C'est principalement Russell qui lui a donné sa charge politique en 1976 en organisant un tribunal international des crimes contre les femmes à Bruxelles. Les deux femmes écrivirent ensemble en 1992 un livre, Fémicide, la politique du meurtre de la femme, et redéfinissent le terme comme le meurtre misogyne de femmes par des hommes. Le terme gagne déjà alors une certaine portée dans les milieux féministes anglo-saxons. Pour ce qui est de la France, l'apparition du terme, elle se fait principalement en 2014. Alors c'est surtout là qu'il se popularise. C'est en effet cette année-là que la Commission générale de terminologie et de néologie qui en recommande l'usage dans le domaine du droit, alors c'est vraiment dans la forme du crime sexiste de manière générale. En 2015, le dictionnaire Le Robert l'intègre dans son dictionnaire avec comme définition meurtre d'une femme, d'une fille, en raison de son sexe. Mais ce sont surtout les milieux féministes français qui ont récupéré le terme à l'époque pour désigner quelque chose de plus précis. Les meurtres de femmes par leur conjoint ou ex-conjoint. C'est là l'usage le plus courant aujourd'hui, également utilisé par les médias et certains politiques. Le terme reste toutefois encore aujourd'hui pas entièrement intégré dans les mœurs. En effet, l'Académie française refuse encore de le reconnaître. C'est également un rapport parlementaire en 2020 qui avait proposé qu'il soit inscrit dans la loi, mais ça a été rejeté. Et c'est là-dessus que je vais terminer et je rends l'antenne à Morgane.
Merci Louis d'avoir éclairé nos lanternes. Et c'est maintenant l'heure d'une première pause musicale avec Malo Bébé qui traite des violences conjugales. Vous êtes toujours sur Prune 92 FM. Un
miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena, y tu inseguridad machita se refleja cada día en mis lagrimitas. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo ni que nadie. Y ahora yo me fumo un cigarrito y te echo el humo en el corazón pito, porque malo, malo, malo eres tú. Malo, malo, malo eres sí. Malo, malo, malo eres siempre. Malo, malo, malo eres.
Langue de prune.
C'était Malo, bébé. Et on continue cette émission avec Azilis qui va nous parler du langage pour parler des violences sexistes. C'est parti.
Et en effet, on parle de plus en plus de violences sexistes et sexuelles. C'est une expression qui est très répandue dans les milieux militants et qu'on commence aussi à utiliser dans les médias. Donc on peut espérer peut-être même au quotidien bientôt. Ça désigne des actes qui sont commis contre la volonté d'autrui et qui sont basés sur les inégalités de genre, sur les rapports de domination patriarcaux. Plus précisément, les violences sexuelles, c'est le fait d'imposer un contact, un comportement et même un propos à caractère sexuel. Et on ne pense pas souvent à la partie propos. L'utilisation de cette expression, ça montre plusieurs avancées. D'abord, la présence du mot violence, c'est important parce qu'on dit ce que c'est sans euphémisme, à la différence d'autres termes comme les abus sexuels, où on dit que c'est abusé, mais on ne désigne pas clairement ça comme une violence. Ça permet aussi de réunir différentes formes de violence dans une même expression. Des violences qu'on reliait pas forcément entre elles auparavant. Par exemple, une blague sexiste et un viol. Ça permet de voir le patriarcat comme un système de domination qui induit ces violences. Il y a un outil qui s'appelle la pyramide des violences sexistes, dans laquelle, à la base de la pyramide, il y a les mots, le langage. Donc les blagues sexistes, les termes inappropriés ou qui objectivent les femmes, par exemple. C'est la base de la pyramide, donc c'est la base de toutes les autres violences sexistes et sexuelles, ce qui va jusqu'au meurtre. C'est la pointe de la pyramide. Et puis, l'autre intérêt de l'expression violence sexiste et sexuelle, c'est que dedans, il n'y a pas le mot femme. Donc, ça permet aussi de parler des violences sur les minorités de genre ou des violences liées à l'orientation sexuelle. Si le langage, c'est la base de cette pyramide des violences sexistes, c'est parce que le langage peut constituer en lui-même une violence. C'est ce dont Morgane nous parlera plus tard. Et aussi parce que le langage peut rendre la violence banale, normale, légitime. C'est ce qu'on appelle la culture du viol. Très souvent, on n'utilise pas les bons mots, des mots inappropriés, trop faibles, notamment parce que les violences et la sexualité, c'est un sujet tabou.
Je me dis, est-ce que vous avez déjà eu... Delphine, toi, t'es magnifique. C'est vrai, bon, comme voilà, Daniel, voilà, vous êtes toutes magnifiques d'ailleurs. Est-ce que toi, quand t'étais mise, quand, voilà, dans le travail, est-ce que t'as déjà eu des lourdeaux qui t'ont chauffé, qui t'ont envoyé des SMS ou...
Des expériences intenables, des gestes déplacés.
Sylvie Imbert avait 26 ans. Il y a quelques jours, elle a été tuée de 2 balles dans la tête par son mari avec lequel elle était en instance de divorce. Il pourrait s'agir d'un crime passionnel comme on en voit plusieurs dans l'année.
Le résultat de tout ça, c'est que les violences sont minimisées. Et ça, c'est une violence en plus quand la violence n'est pas reconnue. Et ça n'encourage pas la dénonciation, ça ne facilite pas leur condamnation. Cette minimisation des violences, c'est très courant au quotidien, dans notre langage de tous les jours, mais c'est aussi répandu par les médias, et même parfois par des personnes qui ont une position d'autorité et de pouvoir. Par exemple, l'Église catholique parle encore parfois de gestes déplacés, pour parler des viols de prêtres sur des enfants. Mélenchon récemment a parlé de divorce conflictuel à propos de, alors je ne sais jamais comment prononcer son nom, je suis désolée, Adrien Quatennens, qui a été violent envers sa femme. Donc c'est plus que conflictuel. Et puis parfois, ça va encore plus loin, les violences sont même carrément niées. C'est le cas de tout ce qui a trait à l'humour. On va dire que les blagues sexistes sont potages, cochonnes, c'est du second degré. Et donc là, la victime de ces violences-là, elle n'est pas reconnue. Et en plus, on lui dit qu'elle n'a pas le sens de l'humour.
Je n'étais qu'un fou, mais pas...
Et oui, comme le disait Maïlys, on associe souvent la violence à l'amour, à la passion. On fait croire que la jalousie, ça excuse tout et que c'est un super beau sentiment. Or, on n'est pas du tout dans le même registre. D'un côté, il y a le registre de l'amour et de l'autre, il y a celui de la violence. Et dans la violence, il y a la volonté de dominer. Les violences sexuelles, c'est pas tant pour obtenir du plaisir sexuel ou une preuve d'amour que parce qu'on veut écraser l'autre. Et cette association entre violence et amour, on la retrouve bien dans le mot pédophilie. Parce que l'étymologie, ça veut dire l'amour des enfants. Et on est très très loin de l'amour des enfants. C'est pour ça qu'il y a d'autres termes qui sont un peu plus plébiscités maintenant, notamment la pédocriminalité par exemple. Alors comme vous l'avez peut-être remarqué dans l'introduction, ce mois-ci, on ne fera pas notre chronique « À qui la faute ?». Pour autant, on va quand même se poser cette question « À qui la faute ?». En fonction du langage qu'on emploie, sur qui est-ce qu'on rejette la faute dans une violence sexiste ou sexuelle ? Alors des fois, on a l'impression que c'est la faute de personne. Il y a plein d'articles de faits divers qui parlent de drames conjugaux, comme si c'était quelque chose d'inévitable, dans l'ordre des choses, on ne pouvait rien faire contre. On parle aussi parfois de dérapage, comme si les hommes ne pouvaient pas se contrôler. C'est pas de leur faute s'ils violent. C'est un peu le mythe des pulsions masculines, qui cherche à expliquer que quasiment toutes les agressions sexuelles sont perpétrées par des hommes, ce serait parce qu'ils n'arriveraient pas à contrôler leurs pulsions, et pas parce qu'ils sont dans un système dans lequel ils sont dominants. Il y a d'autres manières de parler et d'écrire qui font croire que la faute est partagée, entre l'homme et la femme. Par exemple, pour les violences au sein du couple, on parle beaucoup de disputes, comme si l'homme et la femme avaient chacun leur tort et au même niveau. Et ces relations de couple dans lesquelles il y aurait des disputes, ce qui cache en réalité des violences de l'homme sur la femme, c'est parfois valorisé comme une relation passionnelle, notamment dans la musique. Just gonna stand there, watch me burn. Un autre cas où la faute est montrée comme partagée entre l'homme et la femme, c'est dans le cas des violences incestueuses entre frères et sœurs. C'est décrit notamment au cinéma comme de belles histoires d'amour où le frère et la sœur auraient la même place. En réalité, ça nie totalement la domination du frère, qui très souvent est un peu plus âgé que la sœur, et 2 ans en fait pour des adolescents, c'est énorme. Et puis, évidemment, très souvent, c'est la victime qui porte la faute dans notre langage. Quand on dit « elle l'a bien cherché », par exemple, il y a l'idée que la femme a provoqué cette violence. Il y a beaucoup de termes qui montrent la violence comme une punition, une correction. Hein, on entend souvent « ah, il a bien corrigé sa femme ». On a l'impression qu'il y a même une visée éducative. C'est la même chose pour les violences sexuelles. Ça va être la faute de la victime à cause de ses vêtements, de son attitude. On le voit bien dans la phrase qu'on utilise très souvent « elle s'est fait violer ». Avec le mot « fait », le verbe « faire », on a l'impression que la personne a effectué une action, a eu un comportement, bref, a fait quelque chose qui a provoqué le viol. Donc, on essaie de plus en plus d'utiliser d'autres phrases comme « elle a été violée » ou « quelqu'un l'a violée », mais c'est aller à l'encontre de nos habitudes et ça va encore prendre un petit peu de temps, très certainement. Plus rarement, le langage met la faute sur l'agresseur. Quand c'est le cas, il y a parfois du lexique de la guerre, du combat, où il apparaît comme, glorifié presque. Dans l'expression « il bat sa femme », c'est un peu ce qu'on voit. Mais l'avantage, c'est que ça montre aussi que cette violence, c'est un moyen de dominer la femme, de la battre, de gagner. Donc en résumé, le langage pour parler des violences est bien trop gentil envers les agresseurs. Les mots peuvent influer sur nos représentations des violences et contribuer ou non à la culture du viol, mais ils peuvent aussi déterminer si un acte est puni par la loi ou non, selon la définition qu'on donne des agressions sexuelles. Par exemple, la définition du harcèlement sexuel a évolué en 2022. Le harcèlement sexuel au travail comprend maintenant plus de choses et ne se limite plus notamment seulement à ce qui a trait à la sexualité. Le viol est aussi un exemple intéressant. Sa définition a beaucoup évolué au fil de l'histoire. Au départ, ce qu'on sanctionnait, c'était plutôt la transgression de l'ordre social et moral. Ce qui posait problème, c'était de violer la femme ou la fille d'un autre. On parlait de rapt, et ce qui gênait, c'était un peu qu'on avait volé cette femme à un homme. Ce que la femme, elle en pensait, elle ressentait, rien à foutre. Au siècle des Lumières, on a commencé à parler d'atteinte à la personne, en plus d'atteinte à la famille. Et la définition juridique du viol s'est peu à peu constituée, jusqu'à ce qu'en 1980, on le reconnaisse comme un acte sexuel sans consentement. En 1984, on a reconnu le viol conjugal au sein d'un couple, qui était jusque-là considéré comme impossible, puisque la femme était soumise au devoir conjugal. Et donc désormais, dans la définition du viol, il doit y avoir une pénétration sexuelle ou un acte bucogénital. Mais le problème du terme pénétration sexuelle, c'est qu'il est flou. On ne sait pas pénétration de quoi, par quoi. Si c'est un objet, si c'est un doigt, est-ce que ça marche? Ça dépend en fait des jugements. Il commence à y avoir des jurisprudences, mais ça reste assez flou. Depuis 2018, c'est aussi reconnu comme un viol le fait de pénétrer par contrainte, en plus du fait d'être pénétré. Et puis l'autre critère qu'il faut absolument pour que ce soit reconnu comme un viol, c'est l'absence de consentement. Mais c'est bien précisé que ça doit être fait par violence, contrainte, menace ou surprise. Et là encore, on voit que c'est des termes qui peuvent être assez flous et qui mettent à l'écart certaines formes de viol, quand il y a une emprise psychologique ou que la victime est incapable de dire non. Donc les termes juridiques ont évolué, on peut se dire que ce sera possible de faire condamner plus de viols, mais ça reste toujours très flou et soumis à interprétation. Donc beaucoup de violences ne sont pas reconnues, comme l'a dit Maïlys tout à l'heure, malheureusement. Donc c'est important d'utiliser les termes appropriés pour reconnaître ces violences et les dénoncer. Si vous avez envie de voir d'autres exemples du traitement médiatique des violences et de l'importance des termes qui sont employés, il y a un hashtag où j'ai trouvé pas mal de citations un peu choquantes, c'est le hashtag les mots tuent qu'on peut trouver sur Twitter.
Et merci beaucoup Azilis pour cette thématique très intéressante. Et maintenant, on enchaîne avec la deuxième chronique Étymologie en folie, présentée par Axel.
L'étymologie en folie.
Alors moi, je vais commencer, pour alléger un peu l'émission, je vais commencer un peu par une devinette pour mes camarades autour de la table de la radio. Quel mot est-ce que vous connaissez pour désigner les femmes ?
Meuf.
D'accord. J'en ai 10 là de noter. Est-ce que vous allez tous...
Gonzesse.
Oui.
Zouze.
Celui-là, j'y avais pas pensé. Bravo.
C'est pas mal.
Il y a le verlan de meuf, il y a femeux.
Non, ça compte pas.
Dame.
Oui.
Donzelle.
Donzelle, ouais.
Ah, j'ai pas de donzelle.
Gazelle, il y a gazelle aussi.
Oh. J'avais pas gazelle non plus, mais celui-là, c'est plus simple.
Belle, genre ma belle.
Ah, pas mal.
Ma jolie, ça marche aussi.
Il y en a quelques-uns qui sont très utilisés que...
Alors, petite question, on n'est que sur des termes amélioratifs là ? Est-ce que toute ta liste est des termes amélioratifs ?
Ah non.
Parce qu'il y a le côté gourdasse, ce genre de choses-là aussi.
Oui, j'en ai quelques autres que vous n'avez pas encore citées.
Blonde, non, ça c'est au Québec.
Oui. Ah ouais. Oui, et puis c'est plus parler de sa petite copine. Il y en a un très utilisé, je suis sûre que vous l'utilisez quasiment tous les jours et que vous n'avez pas cité.
Fille.
Alors oui, déjà, par exemple, il y a fille.
Fille et femme.
Alors femme, bon, c'était un peu...
Bah écoute...
C'est vrai que fille, on l'utilise même à des âges hyper avancés que garçon. On ne dit jamais que Louis est un garçon.
Non, c'est vrai.
Non.
C'est vrai.
C'est un mec.
Chungo.
Bah, vous verrez ce que... Il y en a un quand même, je pense que ça va vous faire bizarre de ne pas l'avoir dit.
Vas-y.
Bah, je vais reprendre la liste, je vais les détailler un à un. Donc déjà, bon, le terme principal, c'est femme. Ça vient du latin, femina, donc littéralement femme, femelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était la première syllabe qui était accentuée, femina. C'est pour ça qu'après, on a gardé femme, en fait, juste. Et donc, ça vient d'une racine indo-européenne. Et qui veut dire donne la vie. Donc c'est assez littéral, assez simple. Fille, c'est filia, c'est un enfant de genre féminin, jeune personne, c'est le féminin de filius, qui désigne donc un jeune garçon, et qui à la base en fait désignait un nourrisson. Donc ça s'est agrandi petit à petit à des enfants de plus en plus âgés. On a, donc on l'a cité, dame, donc là qui vient de domina, c'était la maîtresse de maison, donc l'épouse du dominus, donc toujours en latin, et donc ça désignait une femme de rang social élevé. C'était assez respectueux, et c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, ça reste un terme courtois. Quand on parle d'une dame, généralement, c'est qu'on désigne quelqu'un de manière assez respectueuse. Et il y a aussi demoiselle, je crois que personne ne l'a dit, et pourtant, c'est très utilisé. Donc c'est Domnicella, toujours en latin, c'était le diminutif de Dominica, qui est une forme dérivée de Domina, qui est devenue après damoiselle en ancien français, qu'on entend dès qu'on fait des trucs sur le Moyen-Âge, et donc du coup, bah, qui est toujours utilisé aujourd'hui. Un mot, le mot que je disais, que ça me surprend que personne ne l'ait cité, nana. C'est quand même toujours très utilisé, je trouve.
Par des mecs.
Ouais, c'est un peu vintage quand même.
Ouais,
c'est,
oui, alors oui, vous allez voir, c'est très vintage. En fait, c'est un mot qui est apparu vers la fin du 19e, qui a été popularisé par le roman Nana d'Émile Zola, qui est sorti en 1880. À la base, c'est un diminutif de prénoms comme Anne, Anna. Mais du coup, c'est devenu populaire par le fait de ce roman et aussi par sa similarité avec un autre mot, nénette.
Ah mais oui.
Et donc là,
ça, c'est qui tu es. Enfin c'est qui tu es.
Oui bah oui mais c'est des trucs qui datent du 19e siècle forcément. Là donc nénette, en fait l'étymologie est un peu plus obscure. Ce qu'on pense actuellement, c'est que c'est un diminutif familier, le être qu'on ajoutait derrière des prénoms à l'époque comme Annette, Jeannette, et du mot néné qui désigne les seins. On a aussi, bah, on l'a cité, gonzesse, ça date aussi du 19e, c'est dérivé du mot gonze, qui était un mot d'argot qui date des années 1600, qui désignait un homme quelconque. C'est assez intéressant de voir que gonzesse est resté et pas du tout la version masculine. Il y a aussi, vous ne l'avez pas mentionné, mégère. Et c'est vraiment un terme qui désigne que les femmes, et ça c'est en fait le nom d'une déesse grecque, la déesse mégère. Le nom vient du latin Megaera, c'était la déesse de la jalousie, de l'envie. Pour parler de termes plus récents, bah, on a cité meuf, le verlan de femme. Le verlan, donc, ça a connu un essor dans les années 70-80, donc ça date sûrement de cette époque-là, on n'a pas de datation précise. On a aussi des choses plus récentes, par exemple racli, ça c'est un mot emprunté au romani, donc la langue des Roms, et aussi le mot go, qui est utilisé à la base pour parler de petite copine, et beaucoup plus maintenant pour désigner une femme. Et donc, ça veut dire petite amie en bambara. Et le bambara, vous le savez tous, c'est une des langues nationales du Mali. Voilà.
Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette chronique très intéressante. Et maintenant, c'est déjà le moment de notre seconde pause musicale. Et on va écouter Cell Block Tango de la comédie musicale que vous devez absolument voir. C'est Chicago.
And now, the six merry murderesses of the Cook County Jail in their rendition of the Cell Block Tango.
Pop. Six. Squish. her up. Lipschitz. Puff.
Squish.
Visceral. Lipschitz.
Puff.
Squish. Visceral. Lipschitz.
He had it coming. He had it coming. He only had himself to blame. If you'd have been there, if you'd have seen it,
I bet you would have done the same.
Puff.
Squish.
Visceral.
Lipschitz.
Squish.
Visceral.
You know how people have these little habits that get you down? Like Ernie. Ernie liked to chew gum. No, not chew. Pop. So I came home this one day and I'm really irritated and I'm looking for a little bit of sympathy. And there's Bernie lying on the couch, drinking a beer and chewing. No, not chewing. Pop it! So I said to him, I said, you pop that gum one more time. And he did. So I took the shotgun off the wall and I fired two warning shots into his head.
He had it coming. He had it coming. He only had himself to blame. If you'd have been there, if you'd have heard it, I bet you you would have done the same.
I met Ezekiel Young from Salt Lake City about 2 years ago, and he told me he was single, and we hit it off right away.
So we started living together. He'd go to work, he'd come home, I'd fix him a drink, we'd have dinner.
And then I found out. Single, he told me. Single my ass. Not only was he married, oh no, he had 6 wives. One of those Mormons, you know? So that night when he came home from work, I fixed him his drink, as usual. You know, some guys just can't hold their arsenic.
He had it coming. Six. He had it coming. He took a bow on a vinegar truck. And then he used it. And he abused it. Six. It was a murder. A gun on a high. Cicero Lipschitz.
Now I'm standing in the kitchen, carving up the chicken for dinner. Minding my own business, in storms my husband Wilbur in a jealous rage. You've been screwing the milkman, he said. He was crazy, and he kept on screaming, you've been screwing the milkman.
And then he ran into my knife. He ran into my knife 10 times.
If you'd have been there, if you'd have seen it, I bet you would have done the same.
Retrouvez Langue de Prune en podcast sur prune.net.
Et vous venez d'écouter Cell Block Tango de la comédie musicale Chicago. Et donc, on enchaîne avec la thématique sur la violence sur les réseaux sociaux et dans les médias. Donc, pour commencer cette thématique, j'avoue que je voulais faire une petite parenthèse qui se prête assez bien au thème que sont les violences verbales sexistes. On se rend de plus en plus compte, grâce aux réseaux sociaux notamment, que des chansons qu'on écoutait tous quand on était plus jeune, ben en fait, elles sont horriblement vulgaires. Alors juste pour vous, voici une petite compile de chansons qui respirent le féminisme à plein nez. Pour la team premier degré, je précise que c'est bien de l'humour là.
Everybody get up.
Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow.
I can still hear you making that sound, breaking me down, rolling on the ground. You can pretend that it was me, but no. Oh, baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down.
Come on, baby, turn around.
Yeah,
you're a star, girl. Take a bite.
Wiggle, wiggle, wiggle.
Et vous aurez sûrement reconnu certaines de cette chanson, ou pas du tout d'ailleurs, et c'est pas grave, c'est même tant mieux. Et il est important de rappeler que certaines de ces chansons, donc sur lesquelles vous vous déhanchez sûrement en soirée, et moi la première, hein, je vais pas non plus faire genre, bah, elles peuvent être clairement très problématiques au niveau des propos. Mais attendez, parce que là, ce que nous avons écouté, c'était chanté par des hommes. Mais les femmes aussi peuvent participer à ce sexisme, que ce soit de leur genre ou non d'ailleurs. Allez, la deuxième compile pour se faire plaisir, mais qui met cette fois les femmes à l'honneur. Et oui, tout le monde en prend pour son grade quand même. Yes, I do the cooking, yes, I do the cleaning. Plus, I keep the nana real sweet for your eating. Yes, you be the boss, and yes, I be respecting whatever that you tell me, cause it's your name, Michael. Used to rhyme all the cycles. Tick, bigger than a tower. I ain't talking about Eiffels. Real country ass nigga, let me play with. Et puis je pouvais pas m'en empêcher. Il fallait qu'on parle de certaines chansons françaises aussi. Alors pour les plus jeunes qui nous écoutent, si ces chansons ne vous disent rien, c'est normal. Et pour ceux qui les connaissent, je sais quelles sont vos plaisirs coupables.
J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Les
Et vous venez d'écouter un monument de la chanson française, Herbert Léonard, avec « Quand tu m'aimes ». Bon allez, juste pour info, toutes ces chansons seront disponibles au niveau du descriptif de cette émission. Donc il y a des compilations partout sur Internet si vous êtes curieux. Vous pourrez retrouver les titres, comme je vous l'ai dit, une fois en ligne au niveau du podcast. Allez, on ferme la parenthèse musicale et on passe aux réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Facebook et j'en passe, autant de mines d'or pour les pépites sexistes. Bon, mais on ne peut pas parler des réseaux sociaux sans le mouvement hashtag MeToo. Finalement, c'est de là que le mouvement féministe des dernières années est parti. Et il a fallu, et c'est triste à dire, que des milliers de femmes témoignent pour que les oreilles se tournent enfin. Après ça, on a également eu la version française avec Balance ton porc, où les femmes racontaient encore une fois leur vécu. Mais avec cette libération de la parole est venue sa déferlante de commentaires sexistes, voire haineux. Je ne vais pas vous les lire ni en citer parce que ce ne serait que donner de la visibilité à des personnes qui ne le méritent clairement pas. Mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Et on aurait pu se dire que ces mouvements et cet éveil auraient réduit le volume de ce genre de commentaires. Mais non. Personnellement, je vois et j'entends encore trop de commentaires de ce genre. Et les réseaux sont l'endroit parfait pour déchaîner sa haine en place publique. C'est vrai qu'il est toujours plus simple de se cacher derrière un écran et un pseudo. Malheureusement, la réalité est souvent tout aussi violente. Exemple récent. Une streameuse nommée Magla a décidé de dénoncer les remarques dont elle et les autres femmes dans le milieu sont victimes. Donc je m'explique. Déjà, un streamer, c'est quelqu'un qui diffuse du contenu sur une plateforme comme Twitch, par exemple. Et l'utilisation de ces dernières plateformes ont explosé avec les années Covid, bien évidemment. Il y a un truc important à savoir sur ce métier, c'est qu'il est dominé par les hommes. Conséquence, les femmes sont très souvent sexualisées dans les commentaires de leurs vidéos ou en ligne, sur d'autres réseaux comme sur Twitter. Et il y a un phénomène encore plus effrayant dont la streameuse parle, c'est la création de pages dédiées à du roleplay. Donc, deuxième instant vocabulaire, le roleplay, c'est-à-dire c'est un jeu de rôle. Vous l'aurez deviné, le but c'est d'incarner un personnage imaginaire dans une histoire qui se construit au fur et à mesure d'une conversation par messagerie instantanée avec d'autres internautes. Donc pour en revenir à mon point de départ, beaucoup de streameuses ont dénoncé ces pratiques par leurs abonnés. Beaucoup font ces jeux de rôle en se basant sur leurs fantasmes concernant les streameuses. Et bien évidemment, ce n'est pas assez et certains s'amusent à créer des montages, des têtes de ces jeunes femmes sur les corps d'actrices pornographiques par exemple. Je vous passe les commentaires qui accompagnent ces posts parce qu'on n'a pas besoin de les entendre pour comprendre de quoi il en retourne. Évidemment, après un tel poste et de telles révélations, dont on est tous conscients, ne mentons pas, on les ignore juste parce que c'est plus facile. Bref, après tout ça, beaucoup de langues se sont déliées et on a pu constater une sorte de hashtag MeToo des streameuses. Et personnellement, bah, ça m'a dégoûtée. On est en 2022, les vagues féministes succèdent. On essaie de faire changer les mentalités, d'évoluer dans le bon sens, vers un monde dans lequel les femmes ne seraient pas traitées comme elles le sont aujourd'hui. Et pourtant, parfois, voilà, on a l'impression que rien n'a changé. Qu'on fait un pas en avant pour faire deux pas en arrière. Et rappelons également que le cyberharcèlement peut aussi être la diffusion de photos sans l'accord de la personne, des insultes, des messages à caractère sexuel, la création de faux comptes. Bon, vous connaissez sûrement la liste, mais je préfère le rappeler. Le cyberharcèlement ne devrait pas être banalisé et les violences verbales entrent dans cette catégorie. Mais il faut rester optimiste. Je crois au changement des mœurs pour le meilleur. Alors pour conclure cette thématique, j'ai décidé de parler de ce que les réseaux peuvent apporter du positif. Je pense qu'ils peuvent être utilisés comme une arme contre les violences sexistes en ligne. Revenons déjà au cas des streameuses. C'est sur Twitter que se sont élevées de nombreuses voix et qu'elles ont pu gagner de visibilité. Tellement de visibilité qu'on a pu voir des articles dans les journaux et partout en fait sur Internet et même à la télé. Et Twitter, comme je disais au début de cette thématique, ça a aussi été le berceau des mouvements hashtag MeToo et hashtag Balance ton porc. Finalement, il y a vraiment le pire et le meilleur sur ce réseau, et sur tous les réseaux d'ailleurs. La preuve, il peut être un tremplin pour faire prendre conscience des problèmes de cyberharcèlement et de sexisme en ligne. Je termine donc par rappeler que si vous êtes victime de cyberharcèlement ou de cyberviolence, fille ou garçon, quelle qu'elle soit, vous pouvez contacter le 3018 qui vous dirigera vers un service spécialisé de la gendarmerie et qui vous guidera et vous aidera. Si vous ne souhaitez pas contacter les autorités, alors parlez-en à quelqu'un, un proche, un psychologue, n'importe qui peut vous aider et surtout en qui vous avez confiance. Et comme je ne voulais pas terminer cette thématique par quelque chose de trop déprimant, on termine avec ce petit message de Balance ton quoi d'Angèle comme petite piqûre de rappel.
Pardon, moi je reviens juste sur un point qui n'est pas forcément hyper limpide. C'est juste que quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est...
C'est non.
Non. D'accord. Ah ouais.
Et voilà, on est déjà arrivé à notre dernière pause musicale. Et donc pour cette dernière pause, nous avons sélectionné un chant de manifestation chilien créé par le collectif féministe Las Tesis. Et cette chanson, c'est Un violador en tu camino.
Es la violencia que no ves.
Langue de prune.
Et on arrive déjà à la fin de cette émission. Alors j'espère que le sujet vous a intéressé autant que nous. Je remercie Maëlys, coprésidente de nous toutes, d'avoir été présente toute cette heure et de nous avoir apporté ces lumières. Peut-être as-tu quelque chose à ajouter sur l'actualité de nous toutes ?
Alors là, dans les prochains mois, ça va être un peu plus calme, ce qui ne fait pas de mal non plus. Mais je vous invite à nous rejoindre. On organise une réunion d'accueil des nouveaux nouvelles, si jamais vous voulez avoir un peu d'infos sur le collectif, comment on fonctionne, etc. Donc ça sera le 12 décembre. N'hésitez pas à nous suivre sur Insta ou sur Facebook pour avoir plus d'infos.
Ok, très bien. Donc l'appel est lancé. Et je rappelle que vous m'avez manifesté hier à Nantes en honneur de la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est bien ça ?
C'est ça. Oui. Et du coup, j'en profite, dans le cadre des assises nationales qui ont eu lieu donc, le 25 et le 26 à Nantes, on a aussi co-signé un manifeste qui a été publié dans Le Monde le samedi 26 novembre. Donc si jamais vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil, c'est nos... Enfin, voilà, c'est un manifeste qui a été publié par rapport aux assises nationales, etc. On est un certain nombre de collectifs et de mairies, de départements à l'avoir signé. Donc voilà, ça peut valoir le coup si vous avez 5 minutes d'aller lire ça.
Très bien, alors que tout le monde a jeté un œil à ça. Je rappelle aussi qu'il faut continuer de se mobiliser contre les violences sexistes. Donc selon noustoutes.org, le 22 novembre 2022, on était déjà à 121 féminicides. Il me semble tout à l'heure que tu as dit qu'aujourd'hui c'était 124.
Oui, c'est ça.
Donc, 121 féminicides le 22 novembre avaient été recensés depuis le début de l'année. Et vous pouvez d'ailleurs visiter le site internet pour vous informer des différentes données collectées ou vous former tout court. Et sachez aussi que s'informer, c'est déjà se mobiliser. Je remercie enfin l'équipe. Merci Azilise.
Merci à toi.
Merci Axel.
Merci à toi.
Et merci Louis.
Merci à toi.
Encore une fois au top et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission et de nouveaux débats sur la langue française. Vous êtes sur Prune 92 FM.
À plus dans le bus,
à plus tard dans le car,
à bientôt dans le métro,
à mardi dans le taxi,
à très vite
dans le cockpit.